Sur Radio Prévert, nous retrouvons nos partenaires de France Nature Environnement Sarthe. Bonjour Sabrina Poirier.
Bonjour.
La directrice de la structure qui est avec nous pour parler des éco-gestes. On en a forcément entendu parler puisqu'il y a une mobilisation pour faire de sorte que cette planète que nous n'avons qu'en un seul exemplaire, je sais que c'est une formule un peu éculée, mais c'est la réalité, Sabrina.
Oui, tout à fait, c'est bien la réalité. Et donc, ça nous permet en plus de protéger l'environnement, de réduire nos factures énergétiques et d'eau. Et donc, en fait, ce n'est pas négligeable arriver en fin d'année de comptabiliser tous ces petits éco-gestes du quotidien qui nous permettent des petites économies et qui, mises bout à bout, nous permettent de faire des économies assez importantes.
Alors, en matière d'éco-gestes, vous en avez quelques-uns à nous soumettre. Par quoi faudrait-il commencer, Sabrina ?
Alors, on peut démarrer, par exemple, par le côté cuisine. C'est vrai qu'on a tous tendance à vouloir faire des éco-gestes là où on peut. Donc, on connaît les gestes habituels, je dirais, couper l'éveil ou baisser le chauffage parce qu'on en entend beaucoup parler. Mais après, on peut peut-être s'attarder sur les appareils électroménagers et puis tout ce qui est associé à la cuisson. Je pense notamment au réfrigérateur, parce qu'il y a encore quelques années, le froid, donc les appareils de froid, que ce soit réfrigérateur ou congélateur, faisaient partie des éléments les plus consommateurs du logement, bien sûr hors chauffage et cuisson. Et donc, en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Donc, dégivrer régulièrement le congélateur permet de réduire significativement la consommation. Donc, pour vous donner une information, entre 2 et 3 mm de givre, donc c'est vraiment pas énorme en épaisseur, nous fait surconsommer de 30% notre appareil de froid. Donc là, il faut vraiment dégivrer régulièrement. Il existe aujourd'hui des appareils qui font du dégivrage automatique. Donc c'est vrai que c'est un plus si on n'a pas le temps de dégivrer régulièrement notre appareil et qu'on est amené à le changer. Mais pourquoi pas se pencher vers ce type d'appareil. Des choses que l'on fait pratiquement jamais, souvent par méconnaissance, c'est de dépoussiérer la grille arrière du réfrigérateur. En fait, la poussière va faire une sorte d'isolant thermique et la grille arrière, elle, permet de dégager la chaleur qu'aura capté le réfrigérateur. Donc en fait, le réfrigérateur ne refroidit pas, mais plutôt absorbe la chaleur à l'intérieur de son compartiment. Et après l'avoir absorbé, il a besoin de dégager cette chaleur. Donc la grille arrière est à dépoussiérer régulièrement, ça peut être une à deux fois l'année. Et il ne faut pas que le réfrigérateur soit en contact direct avec le mur, mais plutôt qu'il ait en fait de quoi faire évacuer cette chaleur par cette grille arrière et d'un espace de 5-6 cm, c'est suffisant.
Voilà pour la cuisine. Est-ce qu'on a fait le tour de la cuisine ?
On va faire le tour, non, parce qu'il y a toujours pas mal de choses. Par exemple, quand on fait de la cuisson, mettre un couvercle réduit d'un quart les consommations d'énergie, quel que soit le type, qu'on soit sur gazinière, plein cas induction et vitro-céramique, par exemple. Donc, en fait, ça, c'est important. On a tendance à ne pas le faire pour pouvoir regarder si tout cuit bien et puis... si ça déborde pas au-delà du couvercle, mais malgré tout, le couvercle est important. Autant réduire un petit peu la flamme ou la température et mettre un couvercle.
Un quart d'économie, c'est pas négligeable, hein, 25% pour ceux qui ont besoin de chiffres pour les ramener à cette réalité-là, c'est toujours du bien qu'on fait à la nature. Alors, est-ce qu'on reste dans la cuisine ou vous nous proposez d'aller ailleurs ?
On peut rester dans la cuisine. Une chose qui est intéressante, c'est que en fait, ceux qui ont un lave-vaisselle, favoriser l'usage du lave-vaisselle plutôt que le lavage à la main. D'autant plus si le lave-vaisselle est récent, il va consommer beaucoup moins que d'eau et d'électricité. Enfin, de fait, d'eau et d'énergie pour chauffer l'eau. Donc c'est électricité ou gaz selon les situations. Et donc en fait, il va être plus intéressant que le lavage à la main. Chose importante, il faut quand même bien le remplir, mais pas trop parce que il faut que il puisse tout laver correctement, parce que si on le remplit de trop et que en fait on doit relaver parce qu'il n'a pas été efficace, c'est pas intéressant. Et il ne faut pas pré-laver, donc ou laisser, je dirais, couler l'eau du robinet pour les appareils que l'on met dedans. Sinon, en fait, tout ce qu'on aura gagné par le lave-vaisselle sera perdu du fait d'avoir fait un pré-lavage en amont. On peut maintenant passer, pourquoi pas, à la buanderie, dans le même principe du lavage. Le lave-linge et le sèche-linge, enfin, de quoi sécher le linge. Donc, le lave-linge, il faut bien entendu le charger au maximum de ses capacités, pas non plus le surcharger. C'est pareil, ça va avoir tendance à ne pas laver le linge correctement. Et en plus, en fait, on va abîmer l'appareil parce qu'il n'est pas adapté. Donc, vous avez des machines avec une précision du poids possible. Et donc, il faut respecter ce poids. Attention au surdosage des lessives. Donc, on a tendance à vouloir même mettre un peu trop pour que ça lave mieux. Donc, ça, c'est une fausse bonne idée. Ça va pas forcément laver mieux. Et il y aura plus de produits après à retraiter au niveau du retraitement de l'eau. Donc on est perdant dans tous les côtés. Et puis, si on met plus de produits, on va devoir en acheter plus souvent. Et donc, on va se retrouver à consommer plus qu'il n'en faut. La plupart des vêtements aujourd'hui se lavent à basse température, donc 30 degrés. C'est trois fois moins en énergie que de chauffer l'eau à 90 degrés. Donc ça va pas empêcher de faire des cycles de temps en temps à température élevée, mais selon les vêtements que vous possédez, eh bien 30 degrés peut suffire. Et puis bien entendu, selon la salissure.
Donc il n'est pas nécessaire de chauffer plus que ça, plus que 30 degrés tout le temps.
Voilà, exactement. Ça va être vraiment dans des cas particuliers où on va chauffer à 60 ou 90 degrés certains vêtements spécifiques. Une chose importante, l'essorage. Donc certes, il consomme beaucoup, en fait, ça fait partie des consommations assez importantes de la machine à laver, tout comme chauffer l'eau, d'où le fait de chauffer à basse température permet de réduire les consommations liées au chauffage de l'eau. Et en fait, l'essorage va permettre, un bon essorage va permettre de sécher le linge bien plus rapidement. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir le sécher à l'air libre et il va se sécher bien plus facilement. Et si toutefois on doit utiliser un sèche-linge parce que il met du temps à sécher à l'air libre, on n'a pas des bonnes conditions météo, eh bien, il va mettre moins de temps. Et le sèche-linge fait partie des appareils les plus consommateurs aujourd'hui qu'on puisse trouver. En fait, de manière isolée, le sèche-linge est un appareil très très consommateur d'énergie, bien plus que le lave-linge ou le lave-vaisselle. D'où son importance de l'utiliser que très rarement et de favoriser le séchage à l'air libre. L'entretien également de l'appareil. Donc l'entretien permet une plus grande durée de vie et donc finalement de moins acheter d'appareils et puis mis bout à bout sur toute une vie. Voilà, ça peut commencer à faire de gros chiffres. Et va permettre un meilleur fonctionnement de lui-même, une meilleure évacuation de l'eau, etc. Voilà, donc une vidange assez régulière. Donc là, ça va dépendre du type d'eau que l'on a et puis du nombre de lavages que l'on fait. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder sur le manuel d'utilisation de l'appareil et de voir aussi quel est le programme le plus adapté aux vêtements que l'on souhaite laver. Donc, le vinaigre blanc est un anticalcaire qui est naturel et qui peut être considéré comme un adoucisseur. Donc, plutôt que d'utiliser un anticalcaire chimique, je dirais, et puis un adoucisseur chimique, On peut, pourquoi pas, mettre un petit peu de vinaigre blanc. Donc c'est pareil, c'est pas une grosse quantité, mais histoire de maintenir une réduction de calcaire et adoucir nos vêtements. Alors, pour continuer dans le linge, on peut retrouver aussi le séchage. Donc je disais, préférez le séchage à l'air libre, si vous pouvez, plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors à l'intérieur, pourquoi c'est compliqué? En fait, le linge va émettre de l'eau sous forme de vapeur d'eau. Donc en fait, on va se retrouver avec un taux d'humidité dans le logement qui va être important. Et l'hiver, on va plutôt faire la chasse à l'humidité parce que plus un air est humide, plus il faudra d'énergie pour le chauffer. Et d'autres raisons, c'est la pollution. Donc en séchant, en fait, le linge va émettre quelques polluants. Et donc, en fait, ça va être des polluants complémentaires à tous ceux qu'on a déjà à l'intérieur. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir plus de polluants que l'on a déjà.
Voilà donc pour le tour de la cuisine et la buanderie avec vous, Sabrina Poirier, directrice de France Nature Environnement Sarthe, vous qui nous parlez des éco-gestes sur Radio Prévert. Alors, d'autres éco-gestes à voir avec vous, où est-ce que vous nous emmenez maintenant?
Alors, dans la salle de bain, donc parfois s'associer à l'espace aussi buanderie, alors préférez des douches rapides plutôt que des bains. Bien sûr, en quantité d'eau, voilà, on va réduire de manière significative. Si l'on a un mitigeur, et de manière générale, c'est bien de couper l'eau quand on se savonne. Donc ça fait partie des gestes que la plupart d'entre nous réalisons. Ouvrir également la fenêtre une fois la douche prise permet d'aérer et donc, comme je disais il y a quelques instants, de limiter la vapeur d'eau dans la salle de bain et donc de limiter le besoin en chauffage de celle-ci. Donc ça permet également d'évacuer en quelques minutes les polluants. Donc aérer de manière générale, quelles que soient les pièces, c'est toujours bon. Il ne faut pas aérer non plus trop longtemps. Et il vaut mieux aérer les fenêtres en grand plutôt qu'avec des petites ouvertures. Pourquoi? Parce qu'en fait, aérer les fenêtres en grand va permettre de balayer l'air de la pièce. Donc là, en l'occurrence, la salle de bain après la douche, de manière très rapide et va permettre en fait de ne pas trop refroidir les murs. Si on aère trop longtemps, en fait, on ne va pas que renouveler l'air, on va aussi en fait refroidir les murs et donc en hiver, c'est pas forcément agréable. L'été, par contre, on peut aérer plus longtemps, mais attention, faut aérer au niveau des bonnes heures. Il faut plutôt aérer le matin de bonne heure, voire la nuit, pour pouvoir refroidir également l'air. Et donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'aérer un peu plus longtemps. Quand on se lave les dents, ne pas laisser couler l'eau. En fait, en général, les mitigeurs ont un débit de 8 à 6 litres minute. Et donc, si on se lave les dents pendant 3 minutes et qu'on fait laisser couler l'eau, je vous laisse calculer par vous-même, ça commence à faire.
Oui, ça c'est vrai.
Voilà, et donc pour éviter de consommer cette vingtaine de litres d'eau juste en faisant couler l'eau, pourquoi pas utiliser plutôt un gobelet pour se rincer les dents. De même, pour se laver les mains, il ne sert à rien de tirer juste l'eau chaude. En général, le temps qu'on se lave les mains, l'eau chaude n'est pas encore venue. Et pourtant, on aura consommé de l'eau chaude, parce qu'en fait, cette eau sera sortie du ballon d'eau chaude et sera dans les canalisations. Donc, cette quantité d'eau que l'on aura retirée sera consommée par le ballon d'eau chaude sans en avoir eu l'usage. Donc ça, c'est assez important. Voilà pour
la salle de bain. Et maintenant, toujours avec vous, Sabrina Poirier, directrice de France Nature Environnement Sarthe, les éco-gestes. On a fait le tour de la cuisine, de la buanderie, de la salle de bain. Et où se trouve-t-on maintenant?
On peut se retrouver dans les pièces de vie, salon séjour. où, en fait, là, on entend beaucoup parler d'éteindre à chaque fois derrière soi, de manière à ne pas consommer de l'électricité pour rien. L'aération est toujours possible. Et puis, quelque chose qu'on fait très rarement, mais c'est dépoussiérer. Donc ça, c'est valable pour toute la maison. Dépoussiérer tous les points lumineux. En fait, on ne va pas faire des économies d'énergie en soi. C'est juste qu'on va avoir un meilleur éclairage et donc une meilleure efficacité de chaque ampoule ou tube fluo que l'on a. Donc ça, c'est important de le faire régulièrement. Là, on se retrouve au printemps. Ça peut être l'occasion pendant le nettoyage du printemps de le faire. Si on trouve qu'il y a une forte épaisseur, on peut se dire que deux fois par an, ça peut être bien. Une fois par an, c'est déjà beaucoup si on n'avait pas l'habitude de le faire. Mettre des boudins de porte à la porte d'entrée qui donne sur l'extérieur, ça permet d'éviter au froid de pénétrer. Par contre, entre chaque pièce, surtout pas ne pas mettre des boudins de porte. C'est vraiment entre le froid et donc je dirais soit la porte qui donne sur le garage, soit la porte d'entrée. Pour les portes interpièces, ça ne sert à rien, bien au contraire. Il faut que l'air puisse circuler. Dans le même état d'esprit, au niveau des ouvertures, nettoyer les grilles d'aération, que ce soit les grilles d'entrée d'air. Donc là, on va être plutôt dans les pièces sèches. Donc, les dépoussiérer. Selon le type d'entrée d'air, si c'est des igots réglables ou non, si ce sont des igots réglables, éviter et même à proscrire les linges humides ou les éponges, parce que ceux-ci vont dérégler le système, donc plutôt un chiffon sec pour les dépoussiérer. Et puis, aérer en grand 5 minutes le matin, par exemple, et puis 5 minutes le soir avant d'aller se coucher ou en rentrant du travail. Même s'il faut être vigilant, si on est près d'une rue circulante, éviter d'ouvrir au moment où il y a le plus de circulation, pour éviter qu'il y ait trop de poulons qui rentrent dans le logement.
C'est bien noté. C'est bien noté, pardon.
Donc ouais, ça c'est important. Alors à la fois c'est pour la qualité de l'air, donc pour nos poumons je dirais, mais aussi pour le bien-être de la maison, pour éviter qu'il y ait trop de polluants et qu'il y ait trop d'humidité pour bien chauffer. L'humidité va aussi favoriser les champignons, donc la moisissure au niveau de ce qu'on appelle nous des ponts thermiques. Donc ce sont en fait des endroits où en fait on a une rupture d'isolation et donc on a tendance à avoir de l'humidité qui va se former dans ces zones-là et qui va favoriser la création de champignons et qui peut être dangereux pour nos voies respiratoires et pas forcément pour nos logements puisque en général les maisons sont un peu moins saines quand ça arrive. De manière générale aussi, je parlais tout à l'heure des économies d'eau qui est aussi important, c'est de repérer et réparer les fuites d'eau. Donc ça, c'est tout logement, que ce soit cuisine, salle de bain, buanderie. Et c'est également valable pour la robinetterie extérieure, quand on a un jardin ou autre, parce que des fuites peuvent avoir un impact assez important sur la quantité d'eau qui va être consommé et on peut se retrouver avec des factures d'eau assez importantes. Je dirais le moins bon élève, c'est la chasse d'eau. Quand il y a une fuite au niveau de la chasse d'eau, la consommation peut être très très importante.
Et par ces temps où on parle beaucoup des alertes qui commencent à être émises par les autorités pour inciter à économiser la ressource eau, c'est un conseil qui est de bon augure. C'est ce que je dis.
Oui, c'est vrai qu'on a tendance, là, aux sorties de l'hiver, à penser le chauffage, mais comme vous dites très bien, on a un gros manque d'eau cette année, et de manière générale, nos nappes phréatiques ne se renouvellent pas suffisamment, et donc on a besoin aussi de faire des économies d'eau, notamment on ne sait même pas comment on va être cet été, Et donc, si on a beaucoup d'épisodes caniculaires, ça peut être vraiment, vraiment compliqué.
C'est bien noté, donc que tout le monde comprenne l'urgence de la situation et adopte les bons gestes qu'il faut, les éco-gestes dont vous nous parlez, Sabrina Poirier, sur Radio Prévert.
Alors, une chose aussi qui est devenue maintenant le plus gros pôle de consommation d'énergie. Donc tout à l'heure, je vous parlais des réfrigérateurs qui, il y a quelques années encore, étaient le plus important. Okay. Maintenant, en fait, ça va être tout ce qui est associé au multimédia. Donc, quand j'entends multimédia, c'est vraiment tous les appareils et électroménagers que l'on a qui sont associés aux loisirs. Donc, ça va être tablette numérique, télé, console, ordinateur. Donc, ça peut être loisirs et travail, téléphone portable, etc. Et en fait, on en a de plus en plus d'appareils. Et donc, ça, c'est important d'en faire bon usage sur tous ces appareils. Donc de systématiquement couper les veilles, de retirer les chargeurs de la prise murale ou de la multiprise quand les appareils sont rechargés. Je pense notamment aux téléphones portables, les tablettes numériques, où on a tendance à les charger, une fois chargés, les débrancher, mais pas de la prise murale. Et donc en fait, on laisse le chargeur dedans et même si les consommations sont faibles, mise bout à bout, ça commence à faire. Et puis, on a tendance en fait à chauffer ce petit transformateur qui est notre chargeur parce que l'électricité circule tout le temps dedans. Donc, on va diminuer la durée de vie des chargeurs. Donc, c'est pas forcément très bien. On peut brancher ces appareils, des familles d'appareils, par exemple, le home cinéma, la télé, le lecteur DVD, la box, sur la même prise, dotée d'un interrupteur. Ce qui fait que quand on n'est plus dans l'usage télévision, cinéma, série, on va pouvoir couper l'ensemble des usages. Ça évite de couper tous les appareils. Quand il y en a 5-6 à couper, c'est pas forcément agréable. Et là, la multiprise dotée d'un interrupteur va permettre de couper l'ensemble des appareils. Les box, la plupart, maintenant, on peut les couper en direct. Donc ça va être le choix de chacun si on a une ligne fixe et qu'on souhaite la garder. Par contre, auparavant, ça a diminué leur durée de vie. Maintenant, il n'y a plus trop ce souci-là et donc il n'y a plus à s'en faire. De plus, retirer le Wi-Fi quand on n'en a pas besoin, par exemple la nuit ou quand on est absent, ça limite les consommations de la box celle-ci prend de plus en plus d'énergie en fait avec le temps et puis avec les technologies qui y sont associées. Donc, les consoles aussi consomment énormément.
Eh oui.
Donc, les utiliser, je dirais, vraiment par parcimonie, à savoir que plus les consoles ont un graphisme important, réaliste, plus elles vont être consommatrices d'énergie.
Donc, avis à ceux qui aiment bien jouer, et donc il peut y avoir quelque chose de fait à ce niveau-là, jouer de façon plus sobre, peut-être, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc après, l'objectif de faire des éco-gestes n'est pas non plus de se sentir frustré et de moins faire des choses. Mais par contre, voilà, si on a une prise de conscience, on peut peut-être se dire, aujourd'hui, au lieu de jouer 3 heures, je vais jouer que 2 heures à la console. Ou sur des jeux en ligne, ce qui va permettre de réduire les consommations. Donc ça peut être comme d'autres choses, à réduire tout doucement. Par exemple, réduire d'une demi-heure dans un premier temps et puis un petit peu plus pour certains jours. Et donc ça permettrait de réduire les consommations d'énergie.
On est toujours dans les pièces de vie, Sabrina Poirier, directrice de France Nature Environnement Sarthe, pour les éco-gestes.
Alors oui, une chose, on n'est plus vraiment dans les économies d'énergie, si ce n'est plutôt dans la qualité de l'air. Tout à l'heure, j'en parlais un petit peu. Donc, éviter d'utiliser des bougies parfumantes qui vont avoir tendance à polluer. Et donc, en fait, c'est pas forcément bon pour nos poumons. Et donc, si vous le faites, pensez à aérer quelques minutes après l'usage, de manière à retirer ces polluants. Donc, en sachant que quand on éteint la bougie, on voit une petite fumée. Et donc, c'est pas forcément très bon pour notre santé. Il faut aussi, de manière générale, fermer les portes entre différentes pièces, parce qu'en fait on n'a pas forcément la même régulation de température. Par exemple, on recommande d'avoir dans les chambres plutôt 16 degrés pour dormir en fraîcheur. Donc ça permet d'avoir un meilleur sommeil et de faire un peu moins de cauchemars. Et en fait, dans la pièce de vie où il fait 19, voilà, on a un gradient de température. Donc si on laisse tout ouvert, finalement, on va avoir un échange thermique et donc on va devoir chauffer un peu plus le salon pour qui va chauffer finalement les autres pièces du logement. Bien entendu, comme je disais tout à l'heure, ne pas calfeutrer ses portes, il faut laisser passer l'air, ce qui va permettre à une meilleure ventilation. Et qui dit meilleure ventilation permettra d'une meilleure maîtrise du chauffage. Puisque même si on a l'impression que quand on ventile, donc là quand je parle de ventilation, c'est les systèmes comme la VMC, donc ventilation mécanique contrôlée, qu'elle soit simple flux, où on va avoir des grilles d'aération au niveau des pièces sèches, donc des grilles d'entrée d'air et des grilles d'aspiration au niveau des pièces humides, ou de la double flux, il faut faire circuler l'air partout dans les pièces. Puisque l'air frais, donc neuf, rentre par les pièces sèches et va se faire aspirer par les pièces humides. Et donc, il faut qu'il y ait une circulation dans toutes ces pièces. Voilà pour ça. La nuit, on peut fermer les volets. En fait, à partir du moment où on allume la lumière, on peut trouver le réflexe de fermer les volets. Ça va limiter les pertes de chaleur par les fenêtres. Et on peut y additionner la mise en place de rideaux. Attention, les rideaux, très souvent nos radiateurs sont sous nos fenêtres. Il ne faut pas que le rideau couvre le radiateur, sinon le radiateur ne va pas chauffer la pièce, mais va plutôt chauffer entre le rideau et la fenêtre. Donc c'est pas forcément bon. Et plutôt, quand arrivera les beaux jours, ouvrir et aérer la nuit de manière à refroidir le logement et fermer les volets dans la mesure du possible la journée, surtout ceux qui donnent sur le soleil, donc plutôt les fenêtres orientées sud et orientées ouest, de manière à pas trop réchauffer le logement. Ça évite l'usage d'une climatisation et ça va éviter donc une surconsommation. Dans le même principe, pour l'été, plutôt favoriser le ventilateur. Donc si on peut, un ventilateur en plafond sera plus efficace qu'un ventilateur, je dirais, sur pied, comme on voit très souvent. Et en fait, permettra la ventilation ne permet pas de refroidir, mais d'avoir une sensation de fraîcheur. Je m'explique, là on l'a eu souvent cet hiver, on a eu des températures clémentes et pourtant la météo nous informait des températures ressenties à des températures bien plus basses. En fait, c'est simplement le fait d'avoir du vent. Donc le vent, donc la ventilation va permettre de refroidir plus rapidement le corps. Donc c'est un phénomène physiologique et donnera une impression de fraîcheur. Donc l'été, la climatisation, elle, va refroidir l'espace, donc va consommer énormément d'énergie, tandis que le ventilateur, c'est juste un petit moteur qui va souffler de l'air, enfin insuffler de l'air, et parfois ça peut suffire si on a adopté les bons gestes au départ et si on a fait en sorte que la maison ne se réchauffe pas trop.
C'est noté, plutôt privilégier le ventilateur que le climatiseur, c'est ce que je déduis en creux de vos propos.
Voilà, c'est ça. Autre élément, donc là je vais plutôt m'adresser aux bricoleurs, notamment l'eau chaude sanitaire. Régler plutôt le ballon d'eau chaude à 55 degrés plutôt qu'à 60. Ça va être 5 degrés de moins à chauffer et donc ça va permettre des économies d'énergie tout en conservant un confort d'eau chaude non négligeable. Il ne faut pas forcément faire un réduit de température trop important.
55 degrés, avez-vous dit, c'est ça?
Oui, voilà, de passer de 60. Alors 60, ce qui était recommandé notamment pour tuer les bactéries, comme on pense à la légionellose. Donc ça, c'est plutôt des bactéries qu'on va retrouver dans des gros chauffe-eau avec des capacités importantes qui pourraient se développer. Le chauffe-eau d'un logement particulier, lui, va se renouveler très souvent. Donc, il ne va pas avoir ce qu'on appelle de l'eau stagnante. Et donc, il y a très peu de chances d'avoir de la prolifération de bactéries. Et donc, on peut réduire à 50-55 degrés. Donc, on peut faire une première étape, un peu comme je disais tout à l'heure, pour l'usage notamment des jeux vidéo, de réduire un petit peu. Eh bien, on peut réduire à 55 degrés. Et puis, si on trouve que c'est confortable, et on peut tenter à baisser à 50 degrés sans que ça pose des problèmes sanitaires. Et si on en a peur, on peut se dire de temps en temps, je sais pas, une fois par mois ou tous les deux mois, de remonter l'eau à 60 degrés pour être certain de tuer l'ensemble des bactéries.
Eh oui. Ça, c'est bien utile, toutes ces informations que vous nous donnez sur Radio Prévert et ces éco-gestes. Qu'on se le dise, c'est autant pour la planète que pour nous-mêmes, parce que, in fine, on pourra s'y retrouver financièrement par ces temps qui courent. On parle beaucoup d'inflation, qui n'est même pas encore à son pic.
Oui.
C'est bon de l'entendre.
Voilà, ça permet d'éviter de trop, d'avoir de trop grosses factures. Donc peut-être qu'on paiera en effet plus malgré tout, parce que là, comme vous dites, la montée des tarifs est élevée, mais ça permettra, voilà, de réduire et d'avoir encore des factures raisonnables.
Merci pour tous ces bons conseils, les auditeurs de Radio Prévert, vous en sauront gré, parce que si on peut faire des économies sur les différentes factures, et oui, on sait bien qu'il y a plein de factures qui tombent, ça fait du bien d'avoir à moins payer. Vous avez d'autres conseils comme ça pour nos auditeurs, Sabrina Poirier, France Nature Environnement Sarthe?
J'aurais tendance à donner un dernier conseil. J'ai parlé de robinetterie tout à l'heure, de fuite d'eau. Faut aussi penser à nettoyer ce qu'on appelle nous des mousseurs, ou alors ça peut être appelé également réducteur de débit. Donc en fait, la plupart d'entre nous avons de l'eau très calcaire dans nos logements, et donc le calcaire a tendance à se former. Et en fait, on va pas avoir le débit escompté si il y a trop de calcaire dans cet aérateur ou mousseur. Et donc le nettoyer régulièrement, notamment en le trempant dans le vinaigre et en le frottant un peu. Si celui-ci a un débit trop élevé, aujourd'hui en fait, il y a des gammes de mousseurs ou réducteurs de débit qui sont assez grands. Et donc, par exemple, dans la salle de bain, on peut, si on est amené à le changer, on peut avoir un réducteur de débit à 2,5 litres par minute, parce que très souvent, on a très peu l'usage d'avoir un besoin de gros débit d'eau, notamment pour se laver les mains ou se rincer les dents. Comme je disais tout à l'heure, quand on se rince les dents, le mieux c'est avec un gobelet. Par contre, pour la cuisine, ça va pas forcément être intéressant d'avoir un réducteur de débit d'autant, de 2,5 litres par minute, parce que quand on veut remplir une casserole pour faire bouillir de l'eau, ou bien remplir le seau d'eau pour laver par exemple le sol, on va se retrouver à ce que ça mette du temps, donc c'est pas forcément agréable. Donc là, on peut plutôt faire le choix d'un réducteur de débit de 5-6 litres par minute. Et en fait, l'objectif de ces réducteurs de débit, c'est donner une impression de gros débit, parce qu'il va mélanger de l'eau avec de l'air. D'où le fait qu'on l'appelle mousseur, parce qu'en fait, on a l'impression que l'eau est un peu moussante dans ce cadre-là. Donc ça, ça peut être intéressant, voilà, de les nettoyer régulièrement. Donc là, ça va dépendre de d'où on habite. Si on habite dans une zone très très calcaire, ça peut être de les nettoyer deux fois par an, par exemple. Si on trouve que c'est pas suffisant, eh bien ça peut être une fois par trimestre, ou bien une fois l'an si on a on est dans une zone pas très très calcaire. Mais la plupart du temps en Sarthe, on est quand même dans des zones assez calcaires.
Merci beaucoup pour tous ces conseils, des éco-gestes qu'on devrait tous intégrer et aussi penser à notre planète hein, qui n'est qu'en un seul modèle, hein, unique modèle pour ce qu'on sache. Hein. Il n'y a pas de planète de rechange. S'il y a certains qui en connaissent d'autres, bah, prière nous appeler pour nous en informer.
Exactement. Bon, j'espère que ces conseils vous aideront et vous apporteront voilà, quelques économies financières au bout. Parce que malgré tout, ça reste le nerf de la guerre. Et si en plus, on peut protéger l'environnement, comme vous dites très bien, on n'a qu'une seule planète. Donc en fait, on est gagnant sur tous les côtés.
Je n'en dirai pas plus, ça va être le mot de la fin. On vous remercie infiniment, Sabrina Poirier, directrice de France Nature Environnement Sarthe, pour tous ces bons conseils, des éco-gestes à écouter, bien sûr, ici, sur Radio Prévert. Merci et à bientôt sur nos ondes.
Merci, au revoir.
Au revoir.